Bonjour à tous et merci d'avoir proposé au Musée national de l'histoire de l'immigration cette carte blanche qui est consacrée aux odyssées des femmes en Méditerranée. Il se trouve que la revue Hommes et Migrations, qui est publiée par le musée, a consacré à l'automne dernier un numéro sur les femmes migrantes engagées, toutes ces femmes qui militent pour leurs droits, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et pour une reconnaissance dans les sociétés d'accueil. Et donc, on a eu envie de proposer une problématique autour de ces migrations féminines. Comme vous le savez, les débats et les publications traitent des migrations humaines en Méditerranée depuis maintenant de nombreuses années. Cette année, la rentrée littéraire a particulièrement été marquée par la présence des femmes, à la fois comme auteurs de nombreux romans, mais aussi comme héroïnes de récits. Cette tendance s'approfondit et s'accroît. Néanmoins, on doit revenir sur la question des migrations féminines qui, pendant longtemps, ont été moins bien traitées que les migrations des hommes. Leur circulation en Méditerranée se développe avec des profils différents peut-être que ceux des hommes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers la rencontre entre deux autrices qui sont issues de disciplines différentes. Nous avons à ma droite, Olivia El-Kaïm, vous êtes écrivaine et journaliste, chargée de bioéthique pour le magazine La Vie. Et vous avez publié Le tailleur de Rélisane chez Stock en 2020, qui est votre sixième roman. Et Camille Schmoll, vous êtes géographe, vous êtes professeure à l'Université de Paris, membre de l'Institut universitaire de France et de l'Institut Convergence Migration. Et vous avez été une des cofondatrices du groupe international d'experts sur les migrations. Et vous publiez Les damnés de la mer, qui est votre premier livre à la découverte, qui peut-être a une vocation plus large que celle d'être une publication pour vos pairs. Alors, les deux ouvrages, en fait, traitent des migrations féminines, mais à leur manière. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment un auteur et une géographe vont aborder ces questions. Et on a une table ronde qui est vraiment en collusion, qui propose donc de faire dialoguer avec leurs sensibilités, leurs intérêts disciplinaires et leur motivation personnelle, les réalités de ces migrations des femmes entre voix de l'intime et voix collective. Alors c'est vrai que la revue Hommes et Migrations a vraiment pour ADN de confronter les productions des sciences humaines et la production des productions artistiques, notamment la littérature. Et donc, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire sur un sujet traité, de confronter différents points de vue. Dans Le tailleur de Rélisane, Olivia, vous restituez l'histoire de vos grands-parents, de votre père, une famille juive installée près d'Oran en Algérie depuis des générations et qui doit s'exiler en France en 1962 à la fin de la guerre d'Algérie. Dans Les damnés de la mer, Camille, vous proposez une cartographie sensible des circulations de ces femmes vers l'Europe, du point de vue de leurs motivations et contexte de départ, mais aussi de leurs expériences au quotidien dans la circulation, les passages aux frontières, les confrontations avec les passeurs, la police, les services d'accueil, les ONG, toutes ces réalités de ces femmes qui vont se retrouver pour de longues années en marge des sociétés où elles tentent de s'installer. Alors Olivia, dans votre premier roman, le personnage central, bien sûr, c'est votre grand-père, Marcel El-Kaïm, tailleur à Rélisane, qui va être enlevé par un commandant du FLN en octobre 58 et qui est en réchappe à condition de confectionner des costumes pour le chef de ce commando. Mais aujourd'hui, on va vous demander de vous intéresser essentiellement au portrait de femmes, à deux personnages en particulier, Léla, votre arrière-grand-mère, Viviane, la femme de Marcel et votre grand-mère, qui sont loin d'être des seconds rôles. La vie de ces femmes, quelle est-elle en fait avant de quitter l'Algérie dans les conditions dramatiques que vous allez raconter ?
Alors, il s'agit de mon sixième roman et de mon premier roman autobiographique, en tout cas assumé comme tel, où je raconte l'histoire de mes grands-parents et essentiellement à travers les aventures, si j'ose dire, de Marcel, mon grand-père, et Viviane, ma grand-mère, et Léla, mon arrière-grand-mère, sont ce que j'appellerais, d'un point de vue presque dramaturgique, des personnages adjuvants, des personnages qui permettent de définir le personnage de Marcel. Néanmoins, elles ont disons, leur propre existence dans le texte, leur propre problématique de femme, puisqu'il m'a été donné, avant d'écrire ce texte, de rencontrer beaucoup de femmes qui avaient vécu à cette période-là. Et j'étais très intéressée de savoir ce que c'était qu'être une femme en Algérie, une femme juive, dans cette communauté particulière, dans les années 40-50. Ce sont deux femmes de deux générations différentes. Léla est née dans les années 1880 en Algérie. Elle est analphabète et elle est donc la première génération qui naît en Algérie, juive, française, par la grâce, si j'ose dire, du décret Crémieux en 1871. Et Viviane, elle, née en 1926, elle va devenir la femme de mon grand-père. Et donc, c'est la deuxième génération à être née française, à avoir ce prénom français, européen, Viviane. Alors, elle s'appelle en vrai, elle s'appelle Viviane Saada, qui est son deuxième prénom, qui est un nom, j'allais dire, judéo-arabe. Donc elle va quand même grandir dans une Algérie française à l'époque, avec l'idée, l'idéal presque de la France. Ce que n'a pas Léla, qui elle était à l'époque habillée, à l'époque j'entends dans les années 50 encore, et même quand elle arrive en France dans les années 60, habillée à la mode judéo-arabe. C'est-à-dire elle était voilée, elle était habillée vraiment comme, presque comme à la fin du 19e siècle, de manière très traditionnelle. Donc ces deux femmes, alors que Viviane, elle, s'habille en tailleur très chic, qu'elle se confectionne elle-même à la mode de Paris, on va dire. Donc ces deux générations, voilà, de deux époques très différentes, elles n'ont pas les mêmes objectifs dans la vie. Léla, c'est une femme très simple, donc je disais analphabète, femme de ménage quand elle a besoin de gagner de l'argent. Viviane est une petite couturière avec beaucoup de talent qui va suivre mon grand-père dans cette ville de Relizane.
Viviane est très attachée à l'Algérie. D'ailleurs, elle...
Pardon, Viviane, oui, est très attachée à l'Algérie. Absolument. Ils sont tous très attachés
même
à l'Algérie.
Même si elle fantasme la France, elle est très attachée à l'Algérie. Et pourtant, elle aimerait bien s'extraire de sa condition d'épouse, de femme au foyer.
Je pense que... Alors elle n'est pas vraiment femme au foyer. C'est-à-dire que, oui, elle s'occupe beaucoup, comme à l'époque, toutes les femmes de ses deux enfants, mon père et mon oncle. Elle est mariée, cela crée un statut très particulier, la femme mariée à Marseille. Bon, et je pense qu'elle a l'idéal de la France, non pas tant comme un pays où les femmes seraient libres, hein, où les femmes pourraient s'émanciper. On n'est que dans les années 50 en France. Hein. Mais en revanche, elle cultive vraiment l'idéal des droits de l'homme, de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça résonne chez elle comme un Eldorado, en fait. Et elle a l'idée, quand se déclenche ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie, mais qu'à l'époque, on nommait comme les événements, donc on ne nommait pas comme étant la guerre, elle a l'idée qu'elle va être bien accueillie en France. Elle cultive ce fantasme-là.
Il y a un troisième personnage féminin dans ce roman, c'est vous, la narratrice, qui est directement impliquée dans cette recherche du passé. Plusieurs fois, vous intervenez, vous déployez vos émotions du moment, vos questionnements du moment, etc. En quoi cette écriture et cette quête est essentielle dans votre propre parcours ?
Alors, ça a été un grand questionnement narratif pour moi. C'est-à-dire que ça ne s'est pas du tout imposé dès le départ. Je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents. Mais ce n'était pas imposé que je parle de moi. Et en fait, progressivement, quand j'écrivais, il y a eu cette phrase qui est arrivée, c'est « La peur est entrée dans la vie de mes grands-parents cette nuit d'octobre 58 », cette nuit d'octobre 58 où mon grand-père se fait enlever. Et je comprends qu'en fait, je ne vais pas pouvoir faire l'économie de ma propre personne dans cette histoire d'exil et d'exilé. C'est-à-dire en quoi, moi, femme contemporaine de 40 ans, je suis marquée dans ma vie de femme contemporaine parisienne par l'exil de mes grands-parents. En quoi cela a un retentissement sur moi ? Dans quelle mesure, à un moment donné, je l'ai refoulé ? Et comme tout ce qu'on refoule, quand ça ressurgit avec une force et une vivacité qui nous terrasse. Et je pense que j'ai été terrassée par l'idée, à un moment donné, que je me dis, mais oui, en effet, je suis une fille d'immigrée. Et fille d'immigrée, ça veut dire quoi quand on est une petite fille, une fille d'immigrée, quand on vient de cette terre d'Algérie qui était un département considéré comme 3 départements français à l'époque. Donc je suis fille d'immigrée, oui, d'accord, mais je viens quand même de la France aussi. Donc je me suis beaucoup questionnée là-dessus et je tente une réponse qui n'est peut-être pas complètement aboutie dans ce roman.
Camille Schmoll, vous êtes spécialiste des questions migratoires. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que vous essayez de faire le point sur la façon d'étudier les migrations transméditerranéennes, mais surtout cet espace de frontières qui se densifie, qui se complexifie, etc. Pourquoi les femmes ont acquis une visibilité dans les recherches sur ce sujet et quel questionnement l'étude des femmes amène-t-il de nouveau ?
Alors, les femmes dont je parle dans ce livre, c'est un type particulier de migration, hein, parmi les nombreuses formes de migration qui peuvent exister, y compris dans l'espace méditerranéen. C'est-à-dire, ce sont ces femmes qui migrent par la voie, pour reprendre l'expression de Frontex, irrégulière. C'est-à-dire qu'elles traversent la Méditerranée par bateau, tout simplement parce qu'elles n'ont pas pu le faire par d'autres moyens. Donc elles n'ont pas pu accéder au visa, elles n'ont pas pu trouver d'autres façons de voyager. Et donc ces femmes-là, c'est vrai qu'elles sont peu mises en valeur dans la littérature, dans la recherche sur les migrations. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un moment donné, moi ça faisait déjà quelques années que je travaillais dessus, hein, c'est depuis la fin des années 2000, et puis il y a eu en 2015 ce qu'on a appelé la crise migratoire, avec pas mal les chercheurs ont été en quelque sorte interpellés parce qu'il y a eu une grande émotion autour de cette crise et on nous a un peu demandé aussi de fournir des explications, de raconter un peu ce qui se passait. Alors il y avait d'autres personnes qui prenaient la parole à ce moment-là, hein, il y en a encore d'ailleurs, qui se sont donc autoproclamés un petit peu experts, mais en tout cas, on nous a aussi interpellés. Et donc, c'est à partir de là que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, donc dédié spécifiquement à ce type de parcours, parce qu'il est vrai que dans les comptes rendus qu'on a de ce type de migration, on parle beaucoup plus des hommes. C'est vrai que les hommes sont majoritaires encore, hein, même si les femmes sont très nombreuses dans les migrations aujourd'hui. Il est vrai que dans ce type de parcours en particulier, on est entre une personne sur 5, une personne sur 6, donc elles sont encore minoritaires. Mais malgré tout, il me semblait que le fait de visibiliser leur parcours, de visibiliser leur histoire, de visibiliser leur vécu, leur expérience, c'était aussi une façon de réinterpréter dans l'ensemble ces parcours migratoires. C'est-à-dire que regarder les choses à travers les yeux de ces femmes et la façon dont elles en parlent, c'est aussi une façon de donner un autre sens aux migrations en général. Ça permet de re-questionner toute une série de stéréotypes, de clichés qu'on peut avoir sur la migration, y compris sur les femmes et sur les hommes d'ailleurs. Et de montrer comment, en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est aussi comment chaque expérience de la migration est une expérience singulière, puisque les femmes dont je parle, elles ont chacune des histoires très diverses, mais en même temps de montrer ce qu'il y avait de commun entre toutes ces personnes qui expérimentaient la migration. Et donc, ce que ces femmes ont en commun, c'est en particulier deux choses, il me semble. Les violences de genre, qui sont quand même un trait commun de leurs histoires, que ce soit des motivations au départ ou que ce soit des choses qu'elles vont expérimenter au fil de leur trajectoire. Et d'autre part, la violence de la frontière, c'est-à-dire que quelle que soit la raison pour laquelle elles sont parties, certaines ont fui des guerres, des conflits, des dictatures, d'autres non. Elles ont fui plutôt des guerres domestiques parfois. En tout cas, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont expérimenté la violence des politiques migratoires actuelles et la façon dont ces politiques migratoires ont un impact direct sur leur trajectoire. Donc c'était pour moi important de faire remonter cette dimension commune, collective, ce type de violence-là aussi.
Ce que vous racontez aussi très bien, parce que vous décrivez très bien, c'est cette idée que la frontière n'est plus un tracé géopolitique entre deux États avec toute une armada d'administration de contrôle et de gestion des flux. Ça devient un espace qui se dilue à la fois dans le temps et dans l'espace. Enfin, c'est-à-dire que c'est une... Et donc les femmes vivent en marge ou dans la marge ou dans la frontière, y compris après être arrivées en Europe et installées temporairement. Elles sont toujours dans une période de transit.
Oui, c'est cette condition d'incertitude, de suspension de la trajectoire que j'ai voulu restituer. Alors, il se passe plein de choses, en fait, dans la marge, dans la frontière. Hein. C'est un lieu où il se passe énormément de choses. Il y a des rencontres, il y a des drames, des opportunités. Comme c'est très long, ça dure des années, il se passe beaucoup de choses. Mais en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de montrer à quel point, justement, les politiques migratoires actuelles, hein, encore une fois, avaient provoqué cet allongement de l'espace-temps de la frontière, qui fait qu'elles sont littéralement dans la frontière, du moment du départ à celui de l'arrivée, qui n'est pas encore vraiment une arrivée. En fait, moi, quand je les rencontre, ces femmes, elles sont en Europe, mais elles ne sont pas encore arrivées, elles ne sont pas encore à la fin de leur trajectoire. Donc, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, en fait. Et c'était cette condition-là qui a été explorée par pas mal de chercheurs, en fait. Hein. Je ne suis pas du tout la première, hein, mais qu'il m'importait d'explorer au féminin.
Olivia, vous décrivez comment Viviane va affronter seule, avec ses deux fils et sa belle-mère, Léla, l'exode et l'arrivée dans la région de Toulouse. Pourquoi ce départ prend-il une tournure dramatique dans la vie de Viviane ? Comment aussi arrivez-vous à montrer les effets de ce départ sur Viviane, sur son physique, sur son état d'esprit ? Comment elle va être la cible d'un traumatisme ? Et en quoi l'intimité corporelle également est atteinte dans cette expérience ? Il y a des jolis passages. Je peux peut-être en lire un sur... en fait, parce qu'il faut expliquer que le tailleur, Marcel, ne part pas avec sa femme. Et il la retrouve plus tard. Et oui. Alors, il est sidéré par son changement.
On est en juin 62. Les accords d'Évian, c'était quelques semaines, deux mois avant. Pour les Juifs d'Algérie qui vont se retrouver dans une situation inextricable, ils vont être obligés... Je le fais très brièvement, mais de partir. Et ils vont devoir, donc, en tout cas, mes grands-parents vont devoir laisser, comme beaucoup de pieds noirs et de juifs d'Algérie, leur appartement, leur magasin, etc. Et donc, comme ils sont... Ma grand-mère a peur, elle a peur des attentats. Mon père subit un attentat, et alors qu'il est tout petit, il part à l'école et il est blessé lors d'un attentat. Donc, ma grand-mère a peur. Et elle va pousser pour que mon grand-père les mette à l'abri. Et donc, ils partent un beau matin à l'aube avec trois fois rien. Et ils sont poussés par la guerre, d'une certaine manière. Ils sont poussés à partir. Et effectivement, Marcel va rester quelques semaines. Et Viviane, Léla, la grand-mère assez âgée, presque 80 ans, et les deux enfants, mon père et mon oncle, vont prendre un avion à La Seigna après une attente. La Seigna, c'est l'aérodrome d'Oran. Après une attente épouvantable de trois jours, ils vont monter dans cet avion sans savoir où ils vont atterrir. Ils vont atterrir à Toulouse. Ce que je trouve intéressant en discussion avec Camille, c'est que ce sont des destins, des vies individuelles qui sont percutées par le politique. C'est-à-dire qu'au fond, s'il n'y avait pas eu la guerre, s'il n'y avait pas eu les attentats, s'il n'y avait pas eu la volonté d'un peuple de se rebeller, d'être indépendant, d'être libre, le peuple algérien, ils auraient continué leur petite vie chez eux. Ils n'avaient pas envie de partir particulièrement. Je veux dire, c'est très, très, très difficile de quitter sa maison. Les photos, les meubles, etc. Ce que je retrouve d'ailleurs dans votre texte, Camille, c'est que ce sont des femmes qui abandonnent leur enfant parfois, qui laissent leur enfant, qui laissent tout derrière elles pour traverser des terres hostiles, une mer hostile. Donc ma grand-mère arrive à Toulouse, folle. Vraiment, elle a une crise de folie dans l'avion. Léla, qui est très vieille, fait une sorte d'embolie pulmonaire. Mon père me raconte qu'une ambulance les attend au pied de l'avion sur le tarmac. Et les seules à leur tendre la main à cette époque-là, c'est des sœurs, des religieuses de Notre-Dame de la Compassion, puisque rien n'a été préparé. C'est-à-dire qu'on accueille des milliers, des centaines de milliers ceux qu'on appelle les pieds noirs, mais on ne sait pas comment les accueillir, rien n'est prêt. Bon. Et donc des religieuses, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ONG, les accueillent sur le tarmac de Toulouse. Et là, en effet, cette expérience de l'exil brutal, je ne crois pas qu'ils aient eu le temps de se préparer, même psychologiquement. Elles repoussent l'idée que oui, il va falloir tout abandonner. Et d'ailleurs, ils cultivent, mes grands-parents, le désir de retourner en Algérie pendant plusieurs années. Enfin, l'idée qu'ils vont pouvoir reprendre leur vie d'avant, l'idée folle. Donc, ça affecte le corps. Je veux dire, ces histoires-là, tout quitter sa maison, etc., n'est pas sans conséquence sur le corps. Donc, elle maigrit, elle vieillit, ses cheveux blanchissent. Et quelques semaines plus tard, quand mon grand-père la retrouve, il ne la reconnaît pas. Et l'impact, même si je n'aime pas ce mot, mais sur le corps physique de l'exil, va se retrouver aussi des années plus tard dans le fait que ma grand-mère se gorge de miel et de sucre et de gâteaux. Elle se remplit là où elle a été vidée de son existence d'avant. Je pense que ouais, le rapport à la nourriture, au corps, est très particulier dans un cas d'exil. Je pense que dans les témoignages que vous avez pu recueillir, vous avez dû le voir.
Si je peux lire un petit passage, Marcel ne reconnaît pas sa femme. Ses cheveux ont entièrement blanchi. Un double menton épaissit son visage. Ses paupières boursouflées transforment ses yeux en de petites billes brunes affolées. Au réfectoire, elle ne peut réfréner ses pulsions alimentaires. Elle réclame les restes, dissimule des quignons de pain, des morceaux de fromage au fond de ses poches. Avec sa serviette de table, elle enveloppe des pâtisseries qu'elle glisse dans son sac à main. Quand elle se réveille au milieu de la nuit, elle se gave.
Moi, je me souviens de ma grand-mère Viviane. J'étais une petite fille, je suis née en 76, donc 14 ans après leur arrivée en France. Je me souviens de la peur de manquer. Et ça, c'était quand elle nous servait à table, il y avait toujours une omelette, alors une tortilla, parce qu'elle voilà, elle avait cette habitude espagnole, on va dire, une tortilla, puis de la viande, puis du couscous, puis voilà. Et puis elle nous gavait comme ça, parce que je pense qu'elle avait cette peur du manque, en fait.
Alors Viviane, c'est aussi une femme combative. C'est une femme qui veut résister à la dureté des conditions d'arrivée, d'accueil, aux difficultés matérielles. Vous décrivez comment ils sont finalement, avec son mari, hébergés à Angers dans une sorte de cave. Tout près.
Alors, on leur fait miroiter donc un travail à Angers, près d'Angers, au pont de C. Ma grand-mère pense que mon grand-père a trouvé une maison. Et quand ils arrivent dans cette maison, en fait, elle comprend qu'on leur attribue la cave. Et donc, je sais que parmi les lecteurs qui m'ont écrit, c'est un aspect du livre qui les a beaucoup marqués, parce que mes grands-parents, pendant un an, vont vivre avec deux enfants relativement petits, de 10 et 9 ans, dans cette cave qui va être inondée, alors que c'est un des hivers les plus froids qu'ait connu la France. Et ils vont devoir se battre pour sortir de cette cave. Mais je me demande si aujourd'hui encore nous en sommes sortis, nous, mes parents, moi, etc. Enfin, mon père, moi, etc. D'une certaine manière, ça demande un effort énorme de sortir de cette cave.
Oui, et puis on sent bien qu'elle veut faire bonne figure, quoi qu'il arrive. Et dans ce petit passage, par exemple, c'est début janvier 1963, c'est leur premier hiver en France. Viviane a revêtu son tailleur imitation Chanel à motif pied de poule. Par-dessus son chemisier crème flotte le collier de ses premières années de mariage. La veille du rendez-vous, elle a soumis ses cheveux à une teinture rouge, unique couleur en promotion au Félix Potin. Il y a quand même cette idée que il faut résister aussi à la cible du rejet, des stéréotypes, des discriminations qui sont portées dans la société française sur les pieds noirs et faire bonne figure.
Oui, je crois qu'elle veut se fondre dans la masse, elle veut disparaître, elle ne veut pas qu'on la stigmatise. C'est une femme qui a sans cesse été reléguée. Elle est née à Tlemcen. Quand elle quitte Tlemcen à 15 ans et qu'elle arrive à Oran, ça c'est un aspect qui n'est pas vraiment dans mon livre parce que c'était pas le sujet de mon livre. Mais quand on arrivait à Oran et qu'on était juif à Oran, notamment au début des années 40, on vivait une forme de relégation. Puis, quand elle arrive en France, elle vit une relégation maximum. Et en fait, oui, elle va vouloir se... Mon grand-père et elle vont vouloir se fondre dans la masse, ne pas faire de vagues. Je pense que la première génération à faire une vague, c'est finalement moi, en écrivant ce livre et en disant voilà ce qui s'est passé, sans stigmatiser personne, mais juste en racontant cette histoire.
Vous avez d'ailleurs conscience que cette expérience est peut-être celle qui sont vécues par les femmes syriennes, africaines qui arrivent en Europe aujourd'hui. Et il y a un passage dans le livre où vous vous demandez comment votre arrière-grand-mère, Léla, aurait accueilli, enfin aurait perçu ces femmes qui arrivent en Méditerranée. Donc là, je me tourne vers Camille. Vous êtes dans les derniers de la mer.
Vous voulez absolument me passer ce papier, non. Je crois.
Excusez-moi. Dans les derniers de la mer, vous proposez cette enquête ethnographique qui suit toutes les étapes des circulations méditerranéennes de ces femmes vers l'Europe. Et vous voulez présenter en fait une autre image que celle qui est véhiculée habituellement dans les médias et dans les discours politiques. Elles sont ni victimes ni héroïnes. Vous dites que si elles sont des survivantes, elles sont également des aventurières, des stratèges, des meneuses parfois. Et donc vous nous invitez à féminiser notre regard sur ces migrations. Pour restituer une dimension féminine peut-être particulière dans toute sa complexité. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, l'idée, c'était d'une part, peut-être revenir sur le format d'écriture. Le fait d'écrire un livre, moi, je suis plutôt habituée à écrire des articles. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de laisser de la place justement à l'épaisseur des trajectoires, à la complexité des trajectoires. Et juste pour rebondir sur ce que disait Olivia, parce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est le moment de la décision de partir, en fait. Revenir sur ce moment-là, par exemple, pour donner un exemple. J'ai pu, à travers le livre, revenir sur les différentes temporalités, montrer qu'il y avait de l'urgence dans la décision de partir et qu'il y avait aussi des choses qui étaient depuis longtemps, en fait, qui se tramaient depuis longtemps. Et je trouve qu'on voit très, très bien dans le livre d'Olivia, justement, la façon dont petit à petit, on va arriver vers cette décision inexorable et cette décision qui, finalement, est à l'initiative quand même en grande partie des femmes, ce qui est souvent le cas, en fait, dans les histoires migratoires, même si il y a toujours du collectif aussi. C'est aussi cette tension entre l'individuel et du collectif. En fait, j'avais vraiment envie de retravailler cette figure de la migration féminine parce qu'il est vrai qu'on a tendance à se représenter les femmes souvent ou comme finalement des victimes d'un mécanisme autoritaire, machiste, qui ferait qu'elles suivent leur mari, qu'on prend la décision pour elles, etc., etc., ou qu'elles sont même victimes, pour le pire, au pire, victimes de traite, hein, ce qui arrive à certaines femmes, effectivement, mais ce n'est pas l'ensemble des femmes migrantes. Et par ailleurs, à cette idée que si elles migrent, c'est parce que ce sont des femmes émancipées. Ça me dérangeait beaucoup, cette idée que la migration, finalement, était une forme d'émancipation. Eh bien, on le voit dans le livre, et je crois qu'on le voit aussi dans votre livre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Hein. Et c'est dans cette tension-là, entre justement émancipation et en même temps vulnérabilisation, parce que ces femmes, malgré tout, au fil de leur exil, puisqu'il s'agit bien d'exil, subissent toute une série de violences, de dépossessions qui font qu'elles sont vulnérabilisées, mais en même temps, il y a des marges d'autonomie, il y a de la reconquête de soi, il y a un travail effectivement sur le corps par exemple qui fait qu'on va, porter une attention particulière aux soins du corps, à l'esthétique, aux routines aussi du corps et effectivement le rapport à la nourriture peut en faire partie également, oui. Et donc toutes ces habitudes qu'on va prendre, qu'on va reprendre et qui permettent aussi d'avancer parce que c'est vrai que c'est pas vraiment l'objet de mon livre mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi qui est un petit peu implicite. C'est comment est-ce qu'on fait, comment on vit avec le traumatisme, comment on vit avec le fait d'être justement, d'avoir survécu. Toutes les femmes dont je parle, elles ont vécu la mort de leurs proches, la mort tragique de leurs proches, que ce soit au lieu d'origine ou en route. Et donc, comment on survit aussi à ça et comment on se reconstruit, comment on se construit une trajectoire malgré tout.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi tout ce chapitre qui montre que la migration, c'est aussi une expérience corporelle. Et ça, je pense que c'est assez nouveau dans le champ des études sur les migrations, de montrer ce que la migration fait au corps. Et pas seulement en termes d'effet du traumatisme.
Oui, alors ça, c'est l'influence des féministes. C'est à force de lire des féministes, on ne pense plus qu'aussi qu'à travers leur regard et la façon dont elles travaillent le corps, justement, hein, comme politique. Et effectivement, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment le corps des femmes, il est traversé par l'influence de ces mécanismes politiques, de ces contextes politiques qui font qu'elles deviennent des surnuméraires, qu'elles deviennent des indésirables et qu'elles sont aussi travaillées par la violence de la frontière. Mais c'est aussi de montrer comment l'appropriation du corps, c'est un premier pas vers l'autonomie. Et de ce point de vue là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est ce que j'appelle féminiser le regard, c'est-à-dire que partir du point de vue des femmes, partir de la façon dont elles parlent et dont elles utilisent leur corps, c'est aussi jeter un regard différent sur les hommes. J'ai envie de dire qu'il y aurait un dernier chapitre à écrire qui serait aussi comment les hommes aussi, comment cette façon de travailler sur le corps des femmes nous permet aussi de retravailler, ce que je n'ai pas fait dans le livre, la question des masculinités en migration. Parce que, bien entendu, les femmes ont un corps, mais les hommes aussi. Donc, il faudrait aller explorer ça aussi. Mais effectivement, ce parti pris du corps, en quelque sorte, ça me semblait très important pour éclairer de façon nouvelle l'expérience migratoire.
Il y a aussi des pages très intéressantes sur l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet comme forme de revalorisation de soi, comme espace d'expression, en fait, là où on est tenu au silence et à l'invisibilité. Je ne sais pas s'il y a des travaux en ce moment sur ces questions-là, mais j'imagine que c'est ce que vous ont dit les femmes que vous avez interviewées pour cette étude.
Oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Moi, je raconte dans le livre, je crois que ce qui m'a interpellée, c'est que la première chose que demandaient les personnes qui arrivaient aux frontières, c'était une connexion Internet. Même avant d'avoir, à la limite, même avant d'avoir un verre d'eau, une connexion Internet. C'est-à-dire que la connexion Internet est devenue quelque chose de vital. On peut toujours s'amuser à stigmatiser les réseaux sociaux, etc. Mais de fait, pour les personnes qui arrivent, c'est devenu une ressource absolument fondamentale, ne serait-ce que pour rester en lien avec ce qu'on a perdu en route, avoir des nouvelles, donner des nouvelles. Il y a eu des histoires de familles dispersées, c'est encore le cas aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on met les familles qui arrivent au sud de l'Europe en quarantaine, dans des bateaux, on les sépare, et donc on n'a pas de nouvelles tout d'un coup des proches. Donc la connexion, c'est important pour ça, mais aussi pour se reconstituer, pour se reconstruire une image en migration.
Je voudrais lire un petit passage, là, sur un petit paragraphe où vous écrivez « Seul, vraiment, critique de la notion de migration autonome ». Pourquoi ce terme de migration autonome devrait-il être réservé aux femmes, quoique c'est le cas dans de nombreux travaux ? Pourquoi n'est-il guère appliqué aux hommes qui partent seuls ? L'usage de cette expression semble par ailleurs soutenir une vision positive de la migration féminine isolée. Partir seule serait le signe d'un élan émancipateur. Au pays de destination, les migrantes autonomes symboliseraient la réussite de l'intégration, en particulier lorsqu'elles se marient avec un autochtone. Ainsi, utiliser l'expression « migration autonome » semble effacer toute forme de contrôle et d'encastrement social. Et donc, vous parlez de autonomie sous contrainte.
Oui, autonomie en tension, autonomie sous contrainte. L'idée, c'est que ces femmes, comme le montrent en général les travaux sur le genre, il y a des aspects de leur trajectoire qui vont dans le sens d'une autonomie et d'autres qui vont moins dans le sens d'une autonomie. Peut-être que pour avancer sur certains plans, elles sont obligées de renoncer à certaines choses aussi. Et c'est cette tension-là, en fait, qui m'intéressait, plutôt que de parler d'émancipation en migration, tout simplement.
Olivia, votre roman est écrit comme une sorte de polyphonie, de mosaïque, où plusieurs personnages et plusieurs destins s'entremêlent. Qui fait le va-et-vient entre l'histoire, le passé, l'actualité, les drames familiaux. On voit aussi que vous avez un souci de recontextualiser ces périodes en vous appuyant sur des travaux historiques, notamment ceux de Benjamin Stora que vous citez plusieurs fois. L'écriture en mille feuilles, si je peux me permettre, du roman.
Je suis un peu pâtissière.
Différentes strates historiques s'entremêlent. Répond-elle à une façon de combattre les faux effets d'une linéarité du récit ?
Mais je pense que, si vous voulez, la linéarité, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça n'existe pas dans la vie. On pense le temps comme passé, présent, futur, comme une espèce de flèche. Mais en réalité, on est un millefeuille de temporalité. Je suis à la fois le passé, le présent, le futur. Et je pense que, si vous voulez, j'avais cette nécessité, mais qui s'est imposée à moi au fur et à mesure de l'écriture, d'essayer de montrer que le passé de mes grands-parents percute mon présent de femme contemporaine et a des effets sur mes propres enfants qui représentent le futur, si j'ose dire. Donc, en fait, l'écriture, comme vous dites, en mille feuilles, elle s'impose d'elle-même. Pour moi, il n'y a pas de linéarité. Je pense qu'on est fait de différentes strates et c'est à cela que c'est cela que veut montrer le roman, je crois.
Et concrètement, comment vous avez procédé pour écrire ?
Alors là, c'est hyper compliqué. Je ne sais pas du tout. Je crois que je ne sais pas, bien sûr que je sais. J'ai d'abord écrit, pris beaucoup de notes sur des carnets et s'est imposé à moi la première scène, qui est la scène, j'ai envie de dire, initiale, de l'enlèvement de mon grand-père et de l'enlèvement de mon grand-père découle tout le reste, d'une certaine manière. Ce moment où ces hommes frappent à la porte, finalement, toute notre vie à la famille El-Kaïm, la famille El-Kaïm, oui, aux enfants de Marcel et Viviane, et à moi, à mon frère, à mon cousin, toute notre vie est marquée par ce moment, finalement, où il se fait enlever. Et quelles conséquences ça a sur nos vies aujourd'hui ? Mais on parlait de la cave tout à l'heure. J'ai quand même un gros problème. Je ne peux pas vivre dans un appartement sans cave, par exemple. J'ai besoin qu'il y ait une cave et je passe ma vie à ranger la cave. Alors, vous voyez comme cette histoire de cave marque encore ma vie de femme aujourd'hui. C'est, oui, je pense que cette passion pour
de
cave, oui.
Oui, de traumatisme ou de silence et de...
Évidemment. Ouais. Évidemment, quand mon fils aîné, Ruben, qui aujourd'hui a 10 ans, est entré pour la première fois à l'école, en petite section, je m'accrochais aux grilles en pleurant. Alors peut-être que certaines mamans le font, mais j'ai réalisé après que cette espèce de folie que j'avais avec l'école était peut-être liée au fait que mon père avait subi un attentat sur le chemin de l'école. Ouais. Mais j'ai mis du temps à m'apercevoir qu'il y avait quelque chose qui se percutait là.
Et votre activité de journaliste, en quoi elle intervient ?
Alors, elle me permet de dire que rien de ce qui est humain m'est étranger. C'est-à-dire que quand j'écrivais ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer une femme réfugiée. J'ai un peu de mal avec le mot migrante, mais j'ai eu la chance de rencontrer une femme réfugiée. J'avais comme perspective de faire un article sur ces femmes réfugiées qui accouchent toutes seules en France et qui n'ont pas de logement et qui se retrouvent dans les maternités à traîner avec leur nouveau-né sans avoir nulle part où aller. Et ça me provoquait une douleur humaine, on va dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui m'a raconté tout son parcours, qui a remonté toute seule comme ça, enfin toute seule avec des groupes de femmes, l'Afrique. Et bon, j'ai pas pu aller plus loin que 2 heures d'entretien et je n'ai pas pu faire ce sujet parce que je pense qu'il aurait fallu que j'aie votre expertise ou en tout cas d'autres ressources que ma simple... expertise journalistique, mais je sais que ça, c'est un destin, cette femme qui m'a beaucoup marquée, et je pense que voilà qu'on retrouve ça dans mon livre, que je me suis beaucoup inspirée de cette femme pour imaginer la détresse des miens dans les années 60, même si c'est évidemment d'un point de vue géopolitique, politique, ça n'a rien à voir. Vraiment, les femmes migrantes ou réfugiées aujourd'hui n'ont pas le même destin qu'ont eu mes grand-mères et arrière-grand-mères. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même contexte.
Camille, vous êtes géographe, donc on imaginerait que vous travaillez avec des statistiques, des cartes et des outils d'analyse du territoire. Et en fait, on a l'impression que cette étude a été beaucoup construite à partir de récits de femmes, d'entretiens. D'ailleurs, le livre démarre par la vie de Julienne. C'est un livre vraiment qu'on prend et qu'on ne peut pas lâcher tant qu'on ne l'a pas fini. Et en même temps, il y a cette rigueur de faire un état des lieux à très juste des travaux qui sont menés sur ces questions de frontières, de migration, etc. J'avais envie de vous poser la question aussi, comment vous écrivez un livre comme ça à partir de votre thèse pour l'habilitation à diriger des recherches. Est-ce qu'il y a eu une volonté de remettre tout à plat et d'écrire autrement ?
Oui, parce que la volonté, c'était vraiment pour revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait que les chercheurs ont été vraiment interpellés sur cette question de la crise migratoire. Il a fallu apporter des réponses à un plus grand public quand même. Donc en fait, le livre, il essaye, je ne sais pas s'il y arrive, mais il essaye en tout cas d'apporter des réponses, pas seulement à mes pairs, à mes collègues, effectivement, mais à apporter des choses à un public plus large. Donc en fait... je suis partie de ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte, j'ai eu une espèce de blocage d'écriture, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas saucissonner la vie des femmes. Je ne sais pas le dire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, moi, j'ai des approches très biographiques, très qualitatives. Je prends des trajectoires, des récits de femmes et je mets des petits morceaux pour illustrer ce dont je parle, des petits morceaux d'entretien. Or là, ça m'était littéralement impossible parce que j'avais l'impression de leur faire violence, en fait. J'avais l'impression, une fois de plus, de couper leur histoire. Et c'est pour ça que je suis partie du récit de Julienne, parce que parmi les femmes que j'ai rencontrées, il y en a eu beaucoup, mais parmi celles que j'ai rencontrées, il y en a quelques-unes que j'ai eu la chance de pouvoir suivre à plusieurs étapes de leur parcours. Julienne en fait partie. Et donc, voilà, avec l'accord de Julienne, j'ai voulu restituer son récit à la première personne. Et ça m'a permis de dépasser ce stade-là, de dire, voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu, ou que Julienne plutôt vous a expliqué ce que c'est, on va pouvoir un peu décortiquer tout ça. On va reprendre les différentes étapes, on va reprendre les différents aspects, on va parler d'autres femmes aussi. Mais au moins, en partant d'elles, j'avais l'impression de ne pas, de pas trop simplifier le propos et aussi de leur redonner la parole en quelque sorte, hein, parce que c'est quand même les grandes oubliées de cette affaire.
C'est des femmes qui ont besoin de beaucoup de confiance. Enfin, moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai faite, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour recueillir cette parole qui parfois est fragmentée. C'est des femmes qui ont du mal à dire, elles ont traversé des épreuves monumentales qu'on a beaucoup de mal à concevoir, en fait, exactement. Et moi, je suis très admirative de ce travail, en fait. Hein.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les récits de l'intime ne chassent pas des aspects plus collectifs, d'engagement. Vous avez aussi des passages sur les luttes de ces femmes, tout le réseau d'acteurs qui les aident, les associations, etc., avec une approche toujours critique. Donc on a l'impression que cette réalité, elle est vraiment perçue de toutes les manières possibles.
Oui, c'était important aussi, parce que c'est parfois moins visible que pour les hommes. C'était important pour moi de mettre en lumière aussi ces formes de micro-mobilisation, si on peut dire comme ça, enfin ces formes de micro-résistance ou de micro-mobilisation que pouvaient mettre en œuvre les femmes, y compris dans les situations les plus difficiles et les plus incertaines. Et donc, effectivement, j'ai essayé de mettre l'accent là-dessus. Ouais. Mais je voulais vous retourner le compliment parce que je pense vraiment que y a les deux livres peuvent dialoguer vraiment cette articulation de l'individuel et du collectif, de la grande histoire et puis de ce que ça fait quand ça commence à bousculer les destins individuels et la part des femmes dans tout ça. Là, je pense qu'on arrive un peu à combler quelques lacunes.
Oui, voilà. Et puis je vous encourage aussi à lire d'autres romans qui parlent de ces épopées féminines d'aujourd'hui ou d'hier d'ailleurs. Merci vraiment à toutes les deux. Je pense que vous avez pu bousculer un peu chacune vos...
Ce sont des odyssées, en fait. C'est vraiment, c'est au sens presque grec, quoi. Vraiment des longs voyages qu'elles entament, ces femmes-là.
Et dans l'exercice de cette table ronde, en fait, on a vraiment pu ne pas être sur le grand écart absolu entre la guerre d'Algérie et puis l'émigration d'aujourd'hui, mais montrer toutes les ramifications de ces réalités-là, qui sont complexes, effectivement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté ce dialogue.
Merci beaucoup.